Alors, merci aux musiciens et à la présidence qui, je trouve, laissait vraiment la place à l'adoration et à la prière. Et la première question que je voulais vous poser ce matin, justement, c'était dans nos moments de prière, quelle attitude avons-nous ? Dans quel état d'esprit sommes-nous ? Et quand nous avons terminé, comment est-ce qu'on en ressort ? Comment est-ce qu'on se sent ? Est-ce qu'on se sent apaisé ? Ou est-ce que peut-être on n'en retire pas grand-chose ? Pourquoi cette question ? Parce que dans le passage que nous allons voir ce matin, nous allons voir deux personnages en train de prier avec des attitudes complètement différentes. Et je vous invite à les découvrir, ou plutôt les redécouvrir. C'est dans le livre de Luc, le chapitre 18 et les versets 9 à 14. Luc 18, versets 9 à 14. Et c'est la parabole du publicain et du pharisien qui vont prier au temple. Alors, il, c'est-à-dire Jésus, dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. » Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, juste pour situer un petit peu ce texte dans son contexte, dans ce chapitre et même dans le chapitre précédent, Jésus est en train d'enseigner. Et à travers cette parabole, il répond aux pharisiens qui sont en train de l'interroger sur la fin des temps, et il s'adresse également plus particulièrement à ses disciples. On a donc la parabole du publicain et du pharisien. Juste avant, on a eu la parabole de la veuve et du juge inique qui en fait nous invite à persévérer dans la prière avec cette veuve qui allait supplier le juge de lui rendre justice et le juge qui ne se souciait guère de cette veuve mais qui finit par lui accorder ce qu'elle veut parce que elle le harcèle, il a envie d'avoir la paix. Et Jésus va dire, si un homme réagit comme ça, à plus forte raison, pourquoi Dieu ne va-t-il pas vous écouter lorsque vous priez ? Donc à travers ces paraboles, Jésus enseigne des vérités spirituelles en se basant sur des éléments du quotidien qui permettent à son auditoire de facilement se projeter, s'imaginer la scène. Et là, avec le publicain et le pharisien, j'ose dire qu'il frappe assez fort parce que ce sont deux personnages qui n'ont vraiment rien à voir, ils n'ont absolument rien en commun. On a d'un côté le pharisien qui vraiment symbolise la personne bien vue dans la société de l'époque, qui était donc un religieux qui avait une place extrêmement importante. Et d'ailleurs, on peut souligner l'audace de Jésus de s'en prendre à lui, parce que le pharisien ne s'en sort quand même pas très bien dans cette histoire. Et donc, ces pharisiens étaient extrêmement sévères sur le respect de la loi, et une de leurs caractéristiques, c'était de se tenir plutôt éloigné des autres parce que les autres n'étaient pas assez purs. D'ailleurs, pharisien veut carrément dire séparé, donc leur simple nom représentait bien leur état d'esprit, leur façon de voir les choses. Et comme la notion de pureté est extrêmement importante dans la loi judaïque, les pharisiens étaient donc des personnes un peu à part, mais des personnes qui avaient le respect des gens autour d'eux. Et si on en parlait, c'était pour en parler avec vraiment beaucoup de respect. Et à côté de ce pharisien, on a le publicain. Alors le publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Bon, je pense que déjà, a priori, les collecteurs d'impôts, on les aime pas trop, quoi. Hein, on préfère garder nos sous. Mais en plus, dans le contexte où Jésus parle, les collecteurs d'impôts travaillaient pour l'occupant romain. Donc non seulement ils venaient prendre leur argent, mais en plus c'était de l'argent qui partait pour l'occupant romain, donc encore une raison de ne pas du tout être apprécié. Et comme pour finir, ils avaient même la réputation de s'enrichir personnellement en demandant aux gens plus que ce qui était demandé par l'occupant pour en garder pour eux, c'était vraiment des gens extrêmement mal vus, qui étaient même considérés comme impurs par rapport à la loi, et considérés aussi comme traîtres à la nation. Alors, pour vous dire à quel point ça allait loin, leur argent n'était pas accepté dans les aumônes, on ne voulait même pas avoir affaire à leur argent, et ils n'avaient aucun droit civique, aucun droit politique, ce qui en fait les assimilait à des esclaves. Donc vraiment, vous avez deux personnages qui sont complètement différents, et pour l'auditoire qui écoute Jésus, bah, spontanément la sympathie va pour le pharisien qui représente la loi, qui représente la pureté, et le publicain, vraiment, à la limite, ils se disent « Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire ? C'est, comment est-ce que Jésus peut prendre comme exemple un publicain ?» Et d'ailleurs, a priori, lorsqu'ils écoutent Jésus raconter cette parabole, le pharisien a un comportement tout à fait normal. Il va prier au temple, il remercie Dieu parce qu'effectivement il est béni d'avoir une position un petit peu particulière. Et à côté de ça, le publicain, pour eux, a un comportement normal. C'est-à-dire que lorsqu'on lit que le publicain se tient à distance, qu'il n'ose pas lever les yeux au ciel, qu'il se frappait la poitrine, L'auditoire se dit sûrement, mais c'est bien la moindre des choses, parce que déjà qu'il ose s'approcher du temple, encore heureux qu'il montre que vraiment c'est le dernier des derniers et qu'il montre qu'il ose à peine être là. Donc, pour l'auditoire, tout est normal. Pourtant, Jésus, à travers cette parabole, va aborder un thème qui revient assez souvent dans son enseignement, que l'on pourrait résumer par l'adage qui dit « les apparences sont souvent trompeuses ». Puisque finalement, ce n'est pas le pharisien qui pourtant était bien vu et qui avait toutes les apparences d'une vie pieuse que Jésus a salué à la fin de sa parabole, puisqu'il l'a condamné en disant que ce n'était pas lui qui était descendu du temple en étant justifié, alors que ce publicain dont personne n'aurait fait le moindre cas, que personne n'aurait été salué en sortant du temple, est salué par Jésus parce que, qu'est-ce qui les a différenciés ? L'attitude de leur cœur dans leur moment de prière. C'est-à-dire que le pharisien m'a fait penser à la grenouille de Jean de La Fontaine qui veut être plus grosse que le bœuf et qui enfle parce que ce bœuf, il est tellement magnifique. Mais comme la grenouille n'est pas faite pour être aussi grosse qu'un bœuf, elle a fini par éclater et son orgueil l'a conduite à sa perte. Tout comme ce pharisien qui, en se comparant aux autres largement à son avantage, s'est complètement trompé sur le sens de sa présence dans ce temple et de sa prière. Parce qu'on pourrait dire que ce pharisien, il se prend pour le centre du monde. Lui, il est irréprochable. Et les autres, d'ailleurs vous remarquerez bien que lorsqu'on le lit apparemment, c'est tous les autres. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Donc il y a lui et le reste des hommes. Qu'il accable de péché, alors que lui-même est tout à fait irréprochable. D'ailleurs, lorsqu'il est écrit « Le pharisien debout priait ainsi en lui-même », plusieurs commentateurs disent que le « en lui-même » peut en fait être traduit plutôt comme « il priait à part », ce qui personnellement me paraît plus adapté par rapport au texte, et qui correspond tout à fait aux prières de l'époque, puisque les pharisiens, effectivement, étaient à part, et ensuite, d'une manière traditionnelle, les gens priaient à voix haute au temple. Donc, a priori, le pharisien n'avait aucune raison de prier à voix basse ou silencieusement, comme on pourrait le comprendre en lisant en lui-même. Alors dans sa prière, le pharisien a une attitude très comptable. Il liste ses bonnes actions, il jeûne, il donne la dîme. D'ailleurs, il souligne en disant qu'il jeûne deux fois par semaine, il souligne qu'il fait plus que ce qui est demandé par la loi puisqu'il jeûne deux fois. Alors il veut prouver son mérite. Mais finalement, qu'en est-il de sa relation à Dieu ? Puisque quand on prie, on est quand même censé être dans cette relation avec Dieu. Mais lui accorde quatre mots à Dieu : « Je te rends grâce » et ensuite, c'est uniquement accabler les autres hommes en disant qu'ils sont vraiment d'horribles pécheurs et souligner que lui, par contre, il a tout juste. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, mais où est Dieu dans tout ça? Qu'est-ce que Dieu lui donne? Qu'est-ce que Dieu lui apporte? Et comme je vous le demandais au début, quand il termine sa prière, dans quel état d'esprit est-ce qu'il est? Il a peut-être un sentiment d'autosatisfaction, il s'est peut-être rassuré en se disant qu'il avait pu dire toutes les bonnes choses qu'il faisait, mais finalement, est-ce qu'il a vraiment rencontré Dieu dans sa prière? Je ne pense pas, puisqu'il a quand même été tout à fait nombriliste, égocentré et uniquement tourné vers ses bonnes actions. Et c'est ce que Jésus condamne. Jésus, je pense, ne condamnait pas les bonnes actions que faisaient les pharisiens, parce qu'effectivement, ils faisaient des choses prévues par la loi et même plus. Ce n'est pas ça que Jésus va condamner. Ce que Jésus va condamner, c'est l'orgueil dans lequel le pharisien va s'enfermer. Un orgueil qui l'empêche de rencontrer Dieu et qui l'empêche de s'ouvrir aux autres. La Bible nous appelle à plusieurs reprises à s'ouvrir à Dieu, mais aussi à s'ouvrir aux hommes, à être unis, à montrer que par l'amour qu'il y a entre nous, cela soit un témoignage. Mais ce pharisien, il est complètement enfermé et centré sur lui-même. Qui est un paradoxe, puisque tout ce qu'il fait dans le cadre de sa foi, de sa relation à Dieu, finalement, rien de bon n'en est retiré à la fin par Jésus. Alors que ce fameux publicain, alors lui, il a tout à fait conscience qu'il est dans une situation spirituelle désastreuse. Lui, il a tout à fait conscience que vraiment, j'allais dire, ça ne va pas du tout. On ne sait pas ce qui l'a poussé à venir dans ce temple. D'ailleurs, peut-être que Jésus a pris ces deux personnes en exemple pour illustrer son propos, mais qu'au départ, ça n'est pas réellement arrivé. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé avant que le publicain arrive au temple, et peut-être que c'est Jésus qui a créé ce personnage pour vraiment souligner que c'était l'attitude du cœur qui comptait au-delà de ce qu'on pouvait voir à l'œil nu. Mais ce publicain, il s'en remet complètement à Dieu, et la manifestation de sa repentance se voit déjà dans son comportement, puisqu'il a la tête baissée, il se tient loin du temple, il se frappe la poitrine, ce qui d'ailleurs à l'époque était plutôt un geste réservé aux femmes dans des occasions vraiment de deuil, de très grande tristesse. Les femmes se frappaient la poitrine. Donc il montre vraiment qu'il est accablé par son péché et qu'il a ce réel désir que Dieu lui fasse grâce. Et c'est paradoxalement en reconnaissant qu'il est incapable de faire quoi que ce soit pour se sauver qu'il va trouver en Dieu la justification. C'est-à-dire que ce pharisien qui pensait suffisamment bien faire et passer à côté, parce que ses bonnes actions à elles seules ne suffisaient pas, et ce publicain qui était brisé, qui vraiment s'effondrait devant Dieu en lui disant qu'il était pécheur, et vous remarquerez bien qu'il ne va pas commencer à dire « j'ai péché parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela », il ne va pas commencer à faire une liste. Il dit simplement « je suis pécheur ». Il assume, il le reconnaît. Et en disant cela, ce que Jésus essaye de faire passer comme message, c'est que la véritable justice, c'est un don de Dieu. L'homme ne peut pas mettre en avant ses actions même si elles sont pieuses. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, évidemment. Mais faire des bonnes actions en ayant conscience qu'on ne les fait pas pour être justifié. On les fait parce que voilà, ça sort du cœur, on veut aimer notre prochain, on veut donner parce qu'on est reconnaissant pour ce qu'on a reçu, mais on sait très bien que ce n'est pas ces bonnes actions qui vont faire que Dieu aura pitié de nous. Dieu a pitié de nous parce qu'on lui dit « Seigneur, aie pitié de moi, je ne suis qu'un pécheur ». Et vous remarquerez qu'à la fin de sa parabole, le verdict de Jésus est vraiment sans appel. C'est-à-dire, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Il ne dit pas, celui-là a été justifié et l'autre un petit peu moins. Fallait qu'il retourne prier le lendemain. Non, l'un est justifié, l'autre non. La loi n'a pas le dernier mot, c'est la grâce de Dieu qui l'emporte. Et finalement, ce qui m'a toujours un peu interpellée par rapport aux pharisiens que Jésus prend souvent en exemple et malheureusement à leur désavantage, ce qui m'interpelle souvent, c'est qu'ils se privent de la générosité de Dieu à cause de leur orgueil. Si ce pharisien avait eu la même attitude que le publicain, il aurait trouvé Dieu avec un cœur ouvert et bienveillant. Finalement, la grâce de Dieu n'a pour limite que l'orgueil de l'homme. L'homme lui-même se coupe de cette grâce. Et en voulant être jugé sur ses actions et selon ses mérites, le pharisien, ce jour-là, est passé à côté de la grâce et d'un réel moment de communion avec Dieu. Alors, je me suis interrogée sur les pistes pour nous aujourd'hui à retirer de cette parabole. Alors, elles sont très nombreuses. Les paraboles recèlent toujours des pistes innombrables. On aurait pu, par exemple, parler de manière un peu plus approfondie de la prière, mais ce matin, je voulais m'interroger avec vous sur le regard, les apparences. Quel regard avons-nous sur les autres ? Le pharisien était respecté, le publicain était méprisé, et si leur sort avait été scellé par l'avis de l'auditoire, évidemment la fin de la parabole aurait été bien différente. Il est écrit dans la Bible, l'homme s'arrête aux apparences, mais Dieu sonde au plus profond de notre cœur. Et je crois, en tout cas, je me suis déjà surprise à le faire, à juger un petit peu hâtivement sur des apparences, sur des on-dits, sur des rumeurs, et puis finalement me rendre compte que je m'étais vraiment trompée sur une personne. Donc soit je pensais que cette personne vraiment, elle a rien compris, elle est superficielle, elle est bourrée de défauts, et puis une fois que je la connais un peu plus, je me dis, Cindy, heureusement que tu as fait un peu plus connaissance, parce que sinon tu serais passée à côté d'une belle rencontre. Et parfois malheureusement, peut-être que vous en avez fait l'expérience aussi, c'est l'inverse. On attend beaucoup de choses d'une personne, on se dit « mais dis donc, qu'est-ce qu'elle est inspirante ?» Et puis en fait, on se rend compte que quand on creuse un petit peu, pas tant que ça. La Bible dit aussi « garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de vie. » Et je pense que dans nos relations avec les gens, C'est un exercice de tous les instants de garder son cœur, de juger trop vite, de condamner trop vite. Alors évidemment, je crois que c'est tout à fait humain de comparer, de justifier, de juger, et c'est pas forcément toujours une mauvaise chose, mais méfions-nous des jugements hâtifs qui finalement ne reposent pas sur l'intérieur d'une personne, mais simplement de quoi elle a l'air. Ceci dit, en disant cela, j'avais à cœur de vous citer ce verset aussi, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, et comme ma mère me l'a fait remarquer ce matin, lorsque Jésus a dit cette parole, alors que des gens bien intentionnés allaient lapider une femme adultère, ces gens sont partis, puisqu'ils avaient tous péché, mais Jésus n'a pas jeté la pierre. Le seul qui aurait pu jeter la pierre lui a dit « Va et ne pêche plus ». Donc je crois que nous pouvons tous pécher, nous péchons tous, je pense, rassurez-moi, dites-moi que vous péchez aussi. Mais je crois que le plus important, c'est de se rappeler que nous pouvons toujours nous repentir et progresser. Et se dire, sur le coup là, j'ai pas été super, mais je peux demander pardon et je peux essayer de faire mieux la prochaine fois. Alors je voudrais passer aussi un petit peu plus rapidement sur d'autres regards. Je me suis aussi interrogée sur le regard que les autres peuvent avoir sur nous. Est-ce qu'ils ont un regard d'approbation parce qu'ils trouvent que nous sommes des personnes qui les encourageons, des personnes qui leur font du bien? Et s'ils ont ce regard d'approbation, est-ce que nous sommes en paix avec ça? Ou est-ce qu'on se dit « s'ils savaient » Parfois, en tout cas, encore une fois, moi, je me suis retrouvée dans des situations où on me faisait moult compliments et je me disais « Ah, si cette personne savait tout, est-ce qu'elle me dirait la même chose? Est-ce qu'elle aurait un regard de compassion? Ou est-ce qu'elle me jugerait en disant « Dis donc, Cindy, cette muraille blanchie, vous savez ?» C'est dans la Bible, ça aussi, la muraille blanchie. Une muraille qui est complètement pourrie, mais un coup de peinture blanche, et c'est tout propre. Peut-être que les gens nous regardent aussi durement. Ils s'arrêtent aux apparences, et ils nous jugent, ils nous critiquent. Mais j'ai envie de dire, dans ce cas, si nous, nous savons que notre cœur est humble et sincère devant Dieu, alors leur jugement est infondé. Et même si ce n'est pas facile d'affronter des regards qui jugent et qui critiquent, je crois, et je pense que vous le pensez également, que le plus important, c'est le regard que Dieu a sur nous. Parce que c'est lui qui sonde nos cœurs. Et pas le voisin ou la cousine qu'on a croisé dans la rue, qu'on n'avait pas vu depuis un moment, et puis qui a dit des choses pas forcément très sympas, qui nous ont fait de la peine. Et quel regard nous, nous avons sur nous-mêmes? Est-ce que nous avons tendance à être un petit peu complaisants, à se dire « bon, je pourrais m'améliorer, mais je suis quand même pas trop mal. » Ou alors, peut-être, nous sommes extrêmement durs avec nous-mêmes. Et dès qu'on fait un truc qui est pas bien, ça y est, on en a pour la semaine à se culpabiliser et à se dire que vraiment, on vaut rien, on est le dernier des mécréants, on est pire que les collecteurs d'impôts. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver, c'est-à-dire Oui, je suis faible, et je crois que c'est tout à fait propre à notre humanité. Nous sommes faibles, nous pécherons sûrement, et même certainement jusqu'à la fin de nos jours. Mais en Dieu, il y a le pardon, la grâce et la justification. Et même quand j'ai fait des choses vraiment, mais vraiment, que j'ai énormément de mal à assumer, et peut-être même des choses qui, aux yeux de la société ou même aux yeux de la loi, sont extrêmement répréhensibles, on peut toujours demander pardon et aller de l'avant avec la force et la paix que nous pouvons trouver en Dieu. Et le dernier regard que je voudrais aborder, c'est justement le regard que Dieu a sur nous. Est-ce qu'il nous approuve? Est-ce qu'il nous encourage en nous disant qu'on tient le bon bout et qu'il faut qu'on persévère? Ou est-ce que peut-être en ce moment il est un petit peu déçu parce qu'il sait qu'on a peut-être deux, trois choses qui nous pèsent un peu lourd sur la conscience? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si Dieu est déçu et nous désapprouve, son regard ne sera jamais le regard du mépris humain, comme dans la parabole avec ces gens qui regardaient le publicain comme le dernier des mécréants. Dieu a toujours un regard d'amour, et il est toujours prêt à nous accueillir d'où que nous venions. Il a accueilli le publicain, il aurait accueilli le pharisien, il a accueilli le brigand sur la croix. Et comme on le disait hier à Baccarat au groupe de jeunes, on ne sait pas ce qu'a fait ce brigand avant. Peut-être qu'il a fait des choses vraiment terribles et que le fait qu'il soit crucifié, effectivement, n'était que justice aux yeux de la loi de l'époque. En tout cas, sa porte et son cœur sont toujours ouverts et je crois toujours prêt à accueillir quiconque vient à lui en étant humble et sincère. Amen.